Bonjour à tout le monde et merci d'être venu pour cette nouvelle conférence IGERA. Donc après avoir parlé de l'Asie du Sud-Est et du Japon, c'est la Chine qui est à l'honneur aujourd'hui. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter Madame Shanya Li, professeure d'art chinois à l'Université de Californie du Sud, l'Université de Southern California. Shanya Li a fait ses études à l'Université de Chicago et Washington, et aussi à Stanford, où elle a pu travailler avec notre collègue Bernard Faure, que beaucoup d'entre vous connaissent bien. Shanya Li est spécialiste donc, de l'art et de l'architecture religieuse en Chine, Chine traditionnelle, et notamment le long de la route de la soie. Elle travaille actuellement sur un livre qui s'appelle « Surviving the Vine », très beau titre, qui met tout de suite le doigt sur le paradoxe que présente le problème de la représentation du mire qui est contre le nirvana. Thank you again.
Well, thank you. It's a pleasure to come to Paris and have this
C'est un plaisir pour moi de venir à Paris et d'avoir cette occasion de partager mes travaux de recherche avec vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la culture matérielle du culte des reliques en Chine médiévale. J'ai commencé à m'intéresser à ce sujet alors que j'écrivais un ouvrage sur les représentations picturales du nirvana du Bouddha de la Chine prémoderne. Ces soi-disant images de nirvana sont très liées en bien des points au culte des reliques, dans la mesure où le nirvana du Bouddha a été le tournant qui a marqué le début de la pratique bouddhique à travers l'Asie. Dans la Chine du Moyen-Âge, ce lien devient plus étroit que jamais avec l'apparition, dès le 8e siècle, d'images du nirvana dans les dépôts de reliques, phénomène qui a culminé entre le 10e et le 12e siècle. Aujourd'hui, au cours de cette conférence, je vais donc vous présenter un certain nombre de dépôts de reliques chinois du Moyen-Âge dans lesquels le nirvana du Bouddha tient une place prépondérante. À partir de ces exemples, je vais examiner la manière dont les représentations picturales, comme celles des images du nirvana ont modelé à la fois la signification et la pratique du culte des reliques dans le bouddhisme chinois. Pour planter le décor, permettez-moi de commencer par retracer brièvement le dernier épisode dans l'histoire de la vie du Bouddha. Après avoir dispensé inlassablement son enseignement pendant 40 ans, Sakyamuni annonça un jour à ses disciples que sa dernière incarnation humaine allait bientôt prendre fin. De Vaisali, où il annonça publiquement pour la première fois l'imminence de son nirvana, il se mit en route pour la ville de Kusinagara. C'est là qu'il tomba gravement malade dans un bosquet d'arbres sala et demanda à Ananda, son plus jeune disciple, de préparer ses funérailles. Le Bouddha donna les indications suivantes. Qu'on l'enveloppe dans son corps dans plusieurs épaisseurs de tissu et de coton, puis qu'on le place dans une série de cercueils en métal s'emboîtant les uns dans les autres et remplis d'huile, que le corps soit ensuite incinéré sur un bûcher de bois ou d'orifan, et que l'on recueille ses cendres dans un reliquaire qui sera placé à l'intérieur d'un stupa érigé à un carrefour. Par ses dernières volontés, le Bouddha affirme l'importance de sa présence physique dans la perpétuation de la foi bouddhiste après le nirvana. Ce faisant, il initie ses disciples au culte des reliques et en consacre l'importance. Dans l'Inde ancienne, l'édification d'un stupa ou d'un tertre hémisphérique destiné à contenir des cendres humaines et à vénérer les morts était une pratique établie de longue date.
L'exemple que j'ai ici est le Dhammarajka stupa, qui est believed to have been one of the original eight stupas built to house the Buddha's relics.
Il n'y a rien de nouveau à ce que le Bouddha ait choisi que son corps soit inhumé de cette manière. Mais il faut attendre quelques centaines d'années et le règne du roi Ashoka de l'Empire Mauryā pour que le stupa soit à ce point intégré à la tradition bouddhiste. La campagne qui a mené Ashoka au milieu du 3e siècle avant Jésus-Christ, afin de rassembler et de redistribuer les reliques du Bouddha, contribua à modifier à jamais la forme et la fonction du stupa. L'histoire d'Ashoka est particulièrement importante dans le cadre de cette conférence, car de nombreux dévots bouddhistes de la Chine médiévale la reconnaissent comme l'explication la plus convaincante de l'origine des reliques bouddhiques découvertes dans tout le pays. On peut constater de manière concrète l'engouement pour cette théorie dans certains dépôts de reliques que nous allons étudier tout à l'heure. Une grande majorité de personnes en Chine médiévale n'a entendu parler d'Ashoka que par l'intermédiaire de légendes, bien plus que par les structures qu'il a fait construire. Je vais donc me concentrer sur cette histoire plutôt que sur les vestiges indiens eux-mêmes. En résumé, après que Sakyamuni ait atteint le nirvana, les malas de Kushinagara recueillirent ses reliques à l'issue de la crémation afin de les vénérer. Ils les placèrent à l'intérieur d'une haute tour entourée de lances et d'arcs. Apprenant cela, les souverains des autres royaumes vinrent réclamer leur part. Afin d'éviter un conflit qui aurait pu se révéler meurtrier, un sage de la région, appelé Drona, partagea les reliques en 8 parts. Chaque souverain devait ensuite rapporter les reliques chez lui et faire construire un stupa pour les abriter. Ce sont ces structures, 10 au total, que l'on appela plus tard les Drona Stupa. L'urne qui contenait les cendres distribuées par Drona donna lieu à la construction d'un 9e stupa, en plus des 8 premiers, et les cendres provenant du bûcher lui-même d'un 10e. Les reliques du Bouddha restèrent disséminées jusqu'à l'époque du règne d'Ashoka. Le roi Maurya, qui régnait sur la majeure partie du sous-continent indien, était résolu à rassembler la totalité des reliques pour des raisons qui tenaient à la fois de sa ferveur religieuse et de politique. La redistribution qui s'ensuivit visait largement à réaliser l'unité de l'Empire en répandant les enseignements du Bouddha. Ashoka conçut cette entreprise de manière tout à fait unique. Il commença par faire rechercher toutes les reliques encore accessibles. Puis, il ordonna que l'on fît construire 84 000 stupas à travers son empire, chacun de ces stupas représentant 100 000 personnes. Toutes les structures devaient être achevées au même moment, de sorte que le roi puisse d'un seul regard embrasser la totalité du monde bouddhiste. Selon John Strong, cette méthode de répartition montre une idéologie politique qui se base sur l'idéal de compassion du bodhisattva et qui vise à ce que l'enseignement du Bouddha soit accessible à tous les sujets de l'Empire. L'élan égalitaire qui fonde cet objectif contraste fortement avec la manière dont les reliques avaient été réparties précédemment et que Strong qualifie de totalitariste parce qu'elle favorisait la centralisation du pouvoir et le culte du secret. On pourrait avancer que c'est l'efficacité des reliques du Bouddha en tant qu'outil politique qui a sans doute attiré de nombreux dirigeants chinois du Moyen-Âge vers le bouddhisme. De l'empereur Wu de la dynastie Liang à l'empereur Wen de la dynastie des Sui, à sa lointaine parente l'impératrice Wu Zetian, fondatrice de l'éphémère dynastie Shu, tous, d'une façon ou d'une autre, s'approprièrent de manière habile le précédent créé par Ashoka, à diverses fins politiques. Le cas de l'impératrice Wu Zetian cadre particulièrement bien avec mon exposé aujourd'hui, puisque certains des premiers récits illustrés du nirvana du Bouddha apparurent sous son règne. On en voit un très bel exemple sur une stèle en pierre de grande taille datant de 692 qui se trouve actuellement au musée Shaanxi de Taïwan. Comme vous le voyez, l'histoire est racontée sur chacun des côtés plats de la stèle sous forme de scènes qui se succèdent. On voit d'abord le dernier sermon du Bouddha, puis le moment du nirvana, la visite de la reine Maya, mère du Bouddha, le Bouddha qui émerge de son cercueil doré, la procession funéraire et la crémation. De l'autre côté, on peut voir la répartition et la mise en chasse des reliques, ainsi qu'un rassemblement autour d'un prêche représentant les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Le but de cette série d'épisodes était d'expliquer en images la production de reliques, d'établir un lien entre les 3 formes de présence que connaît le Bouddha dans son chemin vers le nirvana. Sa forme anthropomorphe d'abord, celle de sa mise en bière, et enfin la pile de reliques. Cette composition inhabituelle avait comme objectif, selon moi, de faire apparaître l'impératrice Wu comme gardienne légitime des reliques du Bouddha, titre qui pouvait lui garantir le statut de monarque bouddhiste idéal à l'image d'Ashoka. ainsi qu'une légitimité politique comme dirigeant suprême de la Chine. Le relief narratif du Nirvana que l'on voit sur la stèle de Shaanxi est un langage pictural qui va rester très présent tout au long du 8e siècle et que l'on va retrouver avec des variantes dans des temples rupestres, des monastères urbains, ainsi que dans les pièces souterraines ou cryptes des pagodes. C'est sur ce dernier type d'espace architectural que je vais principalement me concentrer. Dans les ruines de l'ancien monastère de Qingcheng à Lingtong, Shaanxi, on a exhumé un dépôt de reliques datant de 742. On y a trouvé, dans la chambre principale, un coffre en pierre rectangulaire. Ses parois extérieures étaient ornées de scènes du Nirvana du Bouddha en 4 épisodes. À ce jour, il s'agit de l'exemple connu le plus ancien de représentation du Nirvana découvert dans une chambre reliquaire. Ce relief narratif se déroule à l'horizontale, d'un côté du coffre à l'autre, avec un seul épisode par côté. L'histoire commence par le dernier sermon, représenté sur la face antérieure. Puis se poursuit avec le moment du Nirvana. La crémation.
And then finally, the vision of relics.
Et le partage des reliques. Dans l'ensemble, le choix des scènes est conforme au prototype établi par la stèle de Shaanxi. L'accent qui est mis sur la transformation du corps du Bouddha, de sa forme humaine en un tas de reliques, demeure le pivot thématique du programme iconographique. J'aimerais, à partir de l'exemple du monastère de Qingcheng, pousser un peu plus loin l'étude de la forme et du contenu d'un dépôt de reliques. Dans la tradition bouddhiste chinoise du Moyen-Âge, un dépôt de reliques consistait en un ensemble d'objets rassemblés autour des reliques du Bouddha et composé d'une grande variété d'objets artisanaux, sculptures de pierre fine, images, pièces de monnaie, ustensiles en céramique, récipients en métal et en pierre de toutes sortes. Voici quelques-uns des objets découverts à l'intérieur de la chambre reliquaire du monastère de Qingcheng, dont un ensemble de très beaux reliquaires en métal et en verre. Toute cette collection d'objets était ensuite agencée selon une certaine disposition, puis scellée à l'intérieur d'une structure souterraine de briques ou de pierres, située au niveau des fondations de la pagode d'un complexe monastique bouddhiste. J'utilise les termes « crypte d'une pagode » ou « espace reliquaire » pour parler de la structure physique qui abrite ces objets et qui est souvent elle-même ornée de peintures murales ou d'autres décorations. Je réserve le terme dépôt de reliques à la pratique générale consistant à enchâsser des restes sacrés dans un espace caché, ou si l'on préfère, à la définition à la fois de l'ensemble des objets et de la structure qui les abrite. Au cours de ces 50 dernières années, on a découvert plus de 80 dépôts de reliques dans différentes parties de la Chine, qui pour la plupart datent des 10e, 11e et 12e siècles. Un grand nombre des pagodes qui les surmontaient ayant été détruites bien avant l'ère moderne, la découverte des dépôts dans leur cadre d'origine a contribué à donner l'impression que ces structures souterraines étaient des sépultures. Et en effet, en ce qui concerne les dépôts de reliques, c'est une interprétation répandue en Chine médiévale que de considérer ce type unique d'espace architectural comme une forme de tombeau qui, une fois fermé, serait à jamais inaccessible aux vivants. La raison de cette interprétation est la suivante. Si cela ressemble à une tombe, alors cela doit fonctionner comme une tombe. Concrètement, on peut constater que la crypte d'une pagode est construite avec une partie de l'apparat réservé au tombeau, et suit souvent les dernières tendances de l'architecture funéraire de l'époque. Il ne s'agit pas de mettre en doute ces ressemblances formelles, il est néanmoins essentiel de souligner les différences fondamentales entre ces deux types architecturaux. Et c'est là précisément que la question du regard des fidèles prend toute son importance dans notre discussion. J'aimerais maintenant examiner deux dépôts de reliques du Xe siècle, découverts à Dingzhou, Hebei, qui, à partir de deux angles différents, m'ont fourni des arguments de poids pour réfuter la théorie de la tombe. Tout d'abord, L'exemple du monastère de Yingzi me permet de marquer un point en démontrant que les dépôts de reliques étaient destinés à être vus dans la mesure où leur contenu était soigneusement préservé afin que la génération suivante puisse en hériter et la transmettre à son tour. L'histoire des mises à jour et enfouissements successifs constatés ici, 5 en tout, montrent clairement que chaque génération de dévots a pris de plus en plus conscience de l'héritage qu'elle allait laisser et a ainsi contribué à enrichir le dépôt à la mesure de cette prise de conscience. Deuxièmement, prenons l'exemple du cloître de Yingzhong. La différence essentielle de fonction entre les tombes et les dépôts de reliques apparaît clairement dans le traitement de l'objet, même de l'enterrement, c'est-à-dire ici les reliques authentiques du Bouddha, et non pas le cadavre d'un être humain. Le cloître de Yingzhong est un cas particulièrement intéressant, car le dépôt fut construit pour abriter les cendres d'un moine éminent de la région, comme s'il s'agissait d'authentiques reliques du corps du Bouddha. Pendant le temps qu'il me reste, je vais me concentrer essentiellement sur le cloître de Yingzhong, car il offre aussi une manière nouvelle, assez radicale, d'envisager la représentation du nirvana, qui élargit le champ des significations que l'on peut y associer. Il est tout à fait pertinent de se demander à qui est associé le nirvana représenté ici. En effet, dans le cas présent, la mise en scène est destinée à superposer symboliquement un moine défunt au bouddhiste Sakyamuni, le but étant la sanctification des reliques du moine afin de rendre légitime leur vénération. Ceux qui ont construit ce dépôt de reliques ne nous ont pas fait part avec exactitude de ce que cette représentation signifiait pour eux. Pour retrouver quelques-unes des significations possibles, nous devons nous contenter de nous baser sur les témoignages architecturaux présents sur le site et sur d'autres exemples comparables datant de la même période. Grâce à des documents hagiographiques, nous sommes à même d'interpréter ce site de manière assez convaincante. J'espère que nous parviendrons ainsi à une meilleure compréhension de cet échevau complexe, mélange d'imagination et de réalité qui fonde les pratiques du culte des reliques en Chine médiévale. Le dépôt reliquaire du cloître de Yingzhong fut découvert à la fin de l'année 1969. Le site se trouvait au centre de la ville, de ce qui est aujourd'hui le comté de Ding. D'après une inscription figurant sur un coffre en pierre, on a pu la dater de l'an 995 de la dynastie Song du Nord. On y a découvert un total de 106 articles, dont de nombreux objets de céramique et de métal, témoins de l'artisanat le plus raffiné de l'époque. Voici quelques pièces de métal et quelques ustensiles Ding provenant du site. La cruche à eau à tête de dragon est particulièrement remarquable. J'attire votre attention sur le fait que la plupart de ces objets sont des récipients de formes et de tailles variées, et je vais parler de ce qu'ils contenaient dans quelques minutes. En plus de cet assortiment d'objets, la crypte de la pagode du cloître de Yingzhong peut s'enorgueillir d'un ensemble très vivant de peintures murales, dont le thème central est le nirvana. Les fresques s'étendent sur les murs d'une structure carrée en sous-sol, mesurant environ 2,5 mètres de côté, avec une entrée orientée au sud et un plafond de forme conique. Toutes les fresques sont peintes sur des surfaces qui n'ont pas été enduites et témoignent du style fluide de la peinture au trait. La moitié supérieure du mur nord est entièrement dédiée à une seule composition, l'entrée en nirvana du Bouddha. La scène décrit Sakyamuni étendu sur le côté droit, sur une plateforme de pierres précieuses, une main soutenant la tête, l'autre bras reposant le long du côté gauche du corps. 9 disciples l'accompagnent. Leurs mouvements et leurs gestes frénétiques témoignent de leur profonde douleur. Bien que l'ensemble du corps du Bouddha soit tourné vers l'extérieur, afin d'être entièrement visible de face, son visage porte une expression sereine, mais inaccessible, qui maintient le spectateur à distance, une impression due en grande partie aux yeux fermés. Cette manière délibérée d'éviter le contact visuel avec le spectateur est classique de toutes les représentations du nirvana, quelle que soit l'époque et le lieu. En plus du groupe principal que forment le Bouddha et ses disciples qui le pleurent, il y a d'autres personnages qui méritent notre attention. Tout d'abord, cette silhouette masculine en costume de seigneur qui touche les pieds de Sakyamuni évoque d'autres exemples déjà vus auparavant en Chine. Une pierre sculptée du VIe siècle montre que, bien que ce geste précis lui ait été attribué dans tous les écrits, ce n'est pas Mahakasyapa, le disciple le plus ancien, qui rend hommage par ce geste consistant à toucher les pieds. Deuxièmement, on voit aux deux extrémités de la composition deux silhouettes à moitié nues qui bondissent tout excitées. Il est probable que ce sont des références aux fidèles qui se réjouissent du trépas du Bouddha. Cette scène figure rarement sur les peintures narratives du Nirvana. On ne connaît qu'un exemple antérieur d'une scène comparable qui se trouve dans la cave 148 des grottes de Mogao à Donghang. Enfin, troisièmement, un personnage jette un regard à la dérobée par-dessus le torse du Bouddha. On l'a identifié comme étant sa mère, la reine Maya. Sa présence ici, au moment du Nirvana, est assez inhabituelle. Dans la plupart des exemples Tang, on l'associe plus étroitement à la période qui se situe après la mort, en particulier au moment célèbre où le Bouddha se dresse hors de son cercueil.
Here's a comparative example, again from Cape 148. So, Queen Maya's ear.
Un groupe de six musiciens célestes jouant de divers instruments ornent chacun des murs est et ouest. Bien que les deux groupes soient orientés vers l'entrée, donc loin du mur nord, on pense que leur présence était destinée à compléter la scène du Nirvana du Bouddha à l'arrière-plan. Sur le plan iconographique, l'ajout de représentations de musiciens à la scène du Nirvana est assez spécifique aux espaces consacrés au dépôt de reliques. On en voit rarement sur les objets de pierre sculptés, pas plus qu'à l'intérieur des temples rupestres. L'exemple le plus ancien que nous ayons se trouve au dépôt du monastère de Qingshan, dont nous avons parlé précédemment. On peut y voir, sur chacun des murs est et ouest, une fresque représentant un ensemble de 10 musiciennes et sur un panneau adjacent, 5 moines assis qui les écoutent. Les fresques de la crypte du monastère de Qingshan avaient apparemment comme objectif de venir compléter la scène du Nirvana représentée sur le grand coffre de pierre. Si on compare, on constate clairement que l'exemple du cloître de Yingzhong marque une rupture significative par rapport à la tradition figurative Tang. Les musiciens sont maintenant de solides militaires armés de pied en cap au lieu des jeunes femmes élégamment vêtues de la période qui a précédé. La préférence pour un orchestre militaire entièrement masculin pour accompagner les divinités bouddhistes lors de rassemblements pour un prêche se révèle assez unique dans la période Song. Comme on le voit sur une scène représentant le paradis occidental au monastère Kaihua de Gaoping à Shaanxi, qui date de 1096, les ensembles célestes continuent d'être peuplés de musiciennes. J'espère que cette brève présentation du programme mural de la crypte du cloître Yingzhong vous permet d'appréhender que ces peintures mettent en lumière de nombreux aspects de la culture visuelle de la Chine du Xe siècle qui peuvent nous intriguer. Ainsi, comment les peintures bouddhistes des monastères, des temples rupestres et des dépôts de reliques sont-elles liées les unes aux autres en termes d'iconographie, de mécénat ou de pratiques culturelles ? Ou encore, comment des œuvres découvertes dans ces sites archéologiques nous aident-elles à comprendre la tradition en ce qui concerne la peinture à la cour ou parmi les élites de la même époque et que nous connaissons principalement par le biais de descriptions écrites ou grâce à des copies plus tardives. Étant donné le temps qui m'est imparti aujourd'hui, je vais devoir réserver ces questions pour une autre occasion. Je voudrais approfondir deux aspects liés à l'image du Nirvana. Pourquoi cette scène prend-elle une place d'une telle importance dans la crypte du cloître de Yingzhong? Cette représentation a-t-elle une influence sur le sens global de ce dépôt de reliquaires? Afin de pouvoir avancer dans cette enquête, nous devons examiner l'agencement de l'ensemble des reliques à l'intérieur de la structure. D'après le rapport de fouille du site, la crypte de Yingzhong a livré plus de 100 kilos de reliques, dont un grand nombre de récipients en céramique et en métal. Un grand coffre rectangulaire en pierre, muni de son couvercle, placé sur un piédestal en briques d'un mètre de haut, juste devant le mur nord, contenait un grand nombre de ces récipients à reliques. L'emplacement de deux pagodes en pierre, chacune faisant 1,20 m de hauteur de chaque côté de l'entrée, a aussi son importance. La place du coffre en pierre par rapport aux fresques et à la disposition tout autour des différentes offrandes montre bien que c'est tout son contenu que l'on considérait comme le point central du dépôt. Quand on l'a découvert, le grand pichet en métal Ding que j'ai montré plus tôt se trouvait au centre du coffre, sur le couvercle, entouré d'une demi-douzaine de petites jarres rondes et de bouteilles fermées par des capsules. L'un des côtés les plus longs du piédestal servait également de plateforme où étaient exposées des offrandes supplémentaires, dont une autre jarre ronde, un tas de graines et quelques articles encore. Le piédestal en briques avait lui-même la forme d'un trône sumeru, semblable à la plateforme qui sert de couche que l'on voit sur la peinture du mur nord, la scène du Nirvana. Il semble que cette ressemblance soit intentionnelle et vise à établir une correspondance visuelle entre le piédestal et celui qui figure sur la fresque et par extension entre la silhouette allongée et le coffre en pierre. Il reste un espace vide sur la partie inférieure du mur qui devait permettre l'exposition en contenu d'une succession d'objets et d'images. Comme on le voit clairement sur une photo des fouilles prises de l'entrée, cette juxtaposition contribue à créer l'effet d'une équivalence symbolique entre les images peintes et les objets matériels, de sorte que l'on associe le corps du Bouddha du Nirvana avec le contenu du coffre. Le côté du coffre en pierre qui fait face à l'entrée porte une brève inscription qui permet peut-être d'identifier les principales reliques du dépôt du cloître de Yingzhong. À cet instant, à l'heure Tiachen, du 8e jour du 4e mois de la première année du règne de Jidao, du Grand Song, on a enseveli Shramana Yiyang, celui à qui revient le mérite d'avoir fondé ce temple, le recteur qui faisait des conférences spécialisées dans le Vimalakirti Sutra. Ceux qui ont effectué les fouilles ont déduit de cette inscription que cette pagode fut construite à la mort du moine Yiyang. En 995 ou avant, afin que ses restes soient mis en chasse puis placés à l'intérieur du coffre en pierre. Je suis en principe d'accord avec cette interprétation, malgré la légère ambiguïté du terme « Zhang » enterré de l'inscription. La place centrale de l'inscription, au milieu des noms des nombreux donateurs inscrits de chaque côté du coffre en pierre, renforce la théorie que Yiyang ne serait pas un simple donateur, mais qu'il s'agirait bien là de ses propres reliques. De plus, on a retrouvé à 6 mètres à l'ouest des fondations de la pagode une inscription sur une longue stèle datant de 988 qui nous donne des informations quant à la raison pour laquelle les défauts du cloître de Yingzhong révéraient ce moine au point de lui vouer un véritable culte après sa mort. Le texte figurant sur la stèle s'intitule « Histoire de l'édification du cloître de Yingzhong » et fut rédigé par un certain Shi Chongzhen, secrétaire d'une association locale de dévotion pour la foi en la terre pure. La stèle fut édifiée pour commémorer l'octroi par grâce impériale du nom du temple cloître de Jingzhong en l'an 986. Comment un petit temple bouddhiste des provinces du Nord a-t-il pu se transformer en un centre religieux majeur reconnu par l'Empire ? C'est justement ce que relate l'inscription. Sous bien des aspects, le texte est un panégyrique à Maître Yang, qui est décrit comme unique responsable de cette évolution miraculeuse. C'est un laïc fortuné qui est à l'origine de la fondation du temple, ayant fait don d'un verger à quelques moines locaux. Conscients de leurs limites, les moines demandèrent à Yang de devenir leur responsable. Le maître, qui avait déjà une belle réputation comme prédicateur et administrateur de temple, accepta de relever le défi. Sous la direction de Yang, le temple a rapidement prospéré. Le maître s'occupa des jeunes moines, fit régner la discipline, mais passa également beaucoup de temps à nouer des relations avec la communauté laïque, car il pensait que c'était essentiel pour assurer l'avenir du temple. La piété de Yang, associée à son pragmatisme, furent très efficaces, comme le démontre la création d'une association de dévots qui comptait près de 70 membres peu après qu'il ait repris la direction du temple. L'organisation témoigne de la capacité de ce moine à attirer les croyants de toute la région, une première étape pour lui vers la création d'une plateforme destinée à faire connaître les doctrines et les écrits du Bouddha. On dit que ses sermons attiraient des foules immenses, toujours promptes à envahir le lieu et à se laisser captiver. Les efforts incessants de Yang pour attirer le plus grand nombre à la fois bouddhistes finirent par attirer l'attention de l'empereur des Song. Il se trouve qu'en 986, Taizong préparait une offensive majeure contre le régime de Liao près de Jingzhou.
So to remind you, I have a map. So Dengzhou is located along the border of the border between the Liao regime and Northern Song. And Taizong was in this area to mount a major offensive against the Liao in 986. During that time, he must have learned of the monk's
accomplishments. Sans doute a-t-il entendu parler, alors qu'il rassemblait ses troupes dans la région, de ce qu'accomplissait le moine. La reconnaissance impériale avait sans doute comme objectif de soutenir le moral de la population confrontée à une guerre, mais elle contribua également à renforcer la position de Yang dans le cœur et dans la tête des dévots du cloître de Jingzhong. D'où la nécessité bien compréhensible qui a dû se faire sentir au sein de la congrégation d'honorer la mémoire du moine après sa mort, de rendre hommage à sa vie et à ce qu'il avait apporté à la communauté. Ce qui est tout à fait intéressant pour nous, c'est que le moyen choisi pour répondre à ce besoin fut la construction d'une pagode reliquaire destinée à recueillir les reliques de Yang selon une pratique habituellement réservée aux reliques du Bouddha. Il s'agit d'une démarche radicalement différente que d'enterrer un moine à un endroit prévu pour les sépultures des moines, comme la célèbre forêt de pagode de Shaolingzi, ou que d'enterrer, selon une tradition unique, les restes incinérés de laïcs bouddhistes à l'intérieur d'une tombe conventionnelle, la tombe de Shuanhua numéro 7,
coffin, and it's inscribed with Durani on all four sides. Here, I would show that.
Ici, je dirais que la crypte du cloître de Jingzhong était en fait un site de sanctification monastique, site où Yang devint symboliquement l'objet de culte des reliques. L'édification de pagodes pour accueillir les reliques du Bouddha est une tradition complexe et ancienne de la Chine médiévale. Au Xe siècle, le culte des reliques avait atteint un taux de popularité jamais égalé à aucune autre époque. À mesure que les communautés laïques à travers tout le pays s'adonnaient de plus en plus à ce type de dévotion, la demande pour des reliques authentiques du Bouddha se mit à croître de manière exponentielle. Les spécimens ayant une traçabilité reconnue se firent de plus en plus rares au fil des ans, et quand on en découvrait, ils étaient hautement prisés par les dévots. La pénurie était inévitable et il ne fallut que peu de temps pour que la tradition accepte de reconnaître une nouvelle source d'approvisionnement. Il n'est donc pas surprenant que les cendres des moines finissent par être intégrées au culte des reliques dès le début du IXe siècle. Ce phénomène a été en partie alimenté par la popularité croissante de la crémation comme manière acceptable de disposer des morts dans les communautés bouddhistes chinoises. L'attrait de cette méthode est réel pour tout bouddhiste, puisque le corps humain est instantanément réduit en un tas de cendres, ce qui répond à l'objectif de base du bouddhisme, celui d'atteindre le nirvana ou l'ultime extinction. Comme le dit Bernard Faure, la crémation réduit en effet au minimum la transition entre la mort et la renaissance pour les gens ordinaires, ou entre la mort et l'éveil pour les moines. Malgré l'existence à l'époque d'une forte demande pour les reliques bouddhistes, il importe de garder à l'esprit que les reliques des moines ne remplaçaient en aucun cas les reliques de Sakyamuni, ni sur le plan de la pratique, ni sur celui de la valeur symbolique. Au contraire, les reliques d'un moine qui atteignait le niveau du royaume divin formaient une sous-catégorie distincte à l'intérieur même du culte des reliques. Dans le cas de Yang, au cloître de Yingzhang, j'irais même jusqu'à dire que ce phénomène souligne aussi les efforts concertés de toute une communauté pour instituer la mémoire collective de l'un de ses membres éminents après sa mort. Étant donné les considérables ressources humaines et financières nécessaires à la construction d'un tel monument, il est évident que seuls les moines ayant atteint un niveau d'accomplissement spirituel supérieur ont pu être honorés de la sorte par les membres de leur congrégation. C'est ainsi qu'en consacrant les reliques de moines de qualité de la même manière que les reliques du Bouddha, on pouvait réunir dans un cadre unique la nécessité de la commémoration funéraire et le culte des reliques. La fusion de deux domaines de pratiques distincts concernant l'enchâssement des reliques de moines éminents soulève des questions fondamentales. Par exemple, est-il possible que le dépôt ne soit en fait qu'une tombe ? Le dépôt du cloître de Yingzhang, datant de 995, apporte néanmoins la preuve convaincante que la crypte d'une pagode contenant les cendres d'un moine n'était pas une sépulture humaine au sens conventionnel. Bien sûr, il existe des liens très évocateurs, comme le coffre rectangulaire en pierre en forme de cercueil, ou le plan architectural de la crypte dans son ensemble. Néanmoins, ma principale objection à cela est basée sur le traitement réservé aux cadavres. Au cloître de Yingzhang, le corps de Yang n'a pas reçu le traitement de n'importe quel autre cadavre, justement parce qu'on l'a dépouillé de toute caractéristique humaine pour lui donner en échange une forme sanctifiée. La transformation de Yang commence par la crémation, par laquelle la forme humaine qu'on lui connaissait est réduite à quelque chose que l'on ne peut plus identifier. Ses restes sont ensuite mêlés à d'autres objets et entreposés à l'intérieur du coffre en pierre. Son identité première disparaît alors complètement et on en restitue une nouvelle à son corps fragmenté en l'entourant d'un ensemble d'offrandes somptueuses dignes du statut d'un Bouddha. La comparaison symbolique entre le corps de Yang et celui du Bouddha s'impose avec le plus de force avec la fresque centrée sur le nirvana de Sakyamuni qui entoure l'assemblage des reliques. À travers ces images, la transformation de Yang est alors achevée, son corps étant l'objet d'une reconstitution rituelle du voyage du Bouddha vers l'extinction. Le processus de sanctification de Yang, tel qu'on le voit se dérouler à l'intérieur de la crypte de la pagode du cloître de Yingzhang, contribue à rendre plus concret le sort qui attend de nombreux moines éminents de la Chine médiévale après leur mort, dont les corps sont devenus de véritables icônes et objets de culte. De même, les récits hagiographiques de l'époque nous permettent de mieux comprendre certaines caractéristiques inhabituelles des éléments découverts. Les trois principaux recueils des biographies des moines éminents, rédigés respectivement par Hu Tiao, Dashuan et Zanning, nous fournissent de nombreux éléments caractéristiques d'une période allant du 3e au 10e siècle qui nous permettent d'approfondir le sujet. Sous bien des aspects, la transformation du corps d'un adepte en relique commence bien avant sa mort. Une pratique nous éclaire beaucoup, celle assez répandue chez les moines d'un certain niveau qui consiste à prédire le moment de leur mort. La capacité d'un moine à déterminer le moment de sa mort et donc à s'y préparer était depuis toujours le signe d'un certain degré d'éveil. Dans le bouddhisme, cette connaissance faisait l'objet d'une réelle admiration, car la mort faisait partie de la réalité du monde, de l'impermanence, et la maîtrise de la mort était la clé de la libération du samsara. La manière dont certains moines annonçaient publiquement cette maîtrise, en adoptant une posture spécifique au moment de leur mort, prend tout son sens dans le cadre de notre discussion. Il était essentiel de connaître le moment précis de sa mort si l'on voulait que la pose adoptée à cet instant puisse prendre un caractère symbolique et efficace. Le moment de la mort était souvent un événement public, mis en scène, auquel assistaient les disciples et même les laïcs. Toute erreur de calcul aurait été la cause d'un grand embarras pour l'ensemble des personnes concernées. Dans le cas où tout se déroulait comme prévu, le maître choisissait le lieu de sa dernière demeure, s'asseyait en position de méditation ou s'allongeait sur le côté droit jusqu'à ce que la mort s'empare de lui. La posture adoptée par le mourant, entouré de témoins vivants au moment de sa mort, était une démonstration à la fois intime et publique de son état spirituel à la fin de sa vie. Cette image du mourant était si saisissante sur le plan visuel que la communauté devait pouvoir graver pour toujours dans sa mémoire sa posture finale, sous une forme ou sous une autre. Dans certains cas, le corps du moine défunt allait rester littéralement intact, comme s'il était toujours en vie, défiant les lois de la décomposition naturelle ou de la destruction par le bûcher. Il était alors souvent momifié, icône de chair, et conservé à l'intérieur d'une pagode pour y être vénéré. Dans d'autres cas, le corps, dans sa position finale, allait servir de modèle à des icônes représentant la nouvelle identité divine du moine, image qui serait ensuite distribuée parmi ses disciples. On a l'exemple célèbre de Sengqie, moine d'Asie centrale et objet de l'un des cultes les plus populaires de la période située entre les Tang et les Song du Nord, qui illustre bien la coexistence des deux scénarios. Dans les peintures ou les sculptures, on le représente souvent assis en position de méditation, les jambes croisées, vêtu d'une robe de moine, le capuchon rabattu sur la tête. Cette attitude est biographique dans le sens où elle est censée représenter le moment précis de sa mort, tel qu'il est décrit dans tous les témoignages. Sengqie est mort en position assise au monastère Kongfu à Chang'an en 710. On l'a ensuite ramené dans sa province natale de Siju et enterré tel quel à l'intérieur d'une pagode. Mais au fil du temps, la légende de Sengqie s'est développée et il est devenu célèbre pour ses pouvoirs magiques. L'émergence d'une représentation iconique comme celle-là marque clairement le terme du processus de ritualisation qui suit la mort du moine, le moment où la commémoration funéraire cède enfin la place au culte des reliques. Lorsque les dévots prient une icône comme celle-là, ils ne pensent sans doute pas à sa vie en tant que moine, mais plutôt à une figure divinisée qui serait à même de réaliser leurs vœux. Tout en gardant en tête l'exemple de Sengqie, intéressons-nous maintenant à la position allongée. Dans l'ensemble, cette position n'est pas aussi répandue que la position assise, mais sa popularité n'a cessé de croître sous les Tang. En tout, j'ai pu identifier environ 3 douzaines d'exemples dans les biographies. Pour la plupart, ils ne sont pas aussi célèbres que Sengqie, car ils n'ont pas bénéficié du soutien impérial de leur vivant, pas plus qu'ils ne sont devenus l'objet d'un culte national après leur mort. L'étendue relativement limitée de leur réputation est riche d'enseignements, car elle nous aide à délimiter les différentes étapes qui marquent le développement du processus de sanctification monastique. Ainsi, l'exemple de Sengqie est celui d'un développement avancé qui nécessite que l'on crée une iconographie spécifique afin de promouvoir au mieux la personnalité centrale du culte et les valeurs qu'elle représente. En revanche, on peut considérer que les moines dont je parle maintenant représentent le niveau en dessous avec un processus qui à la fois émane de la population locale et lui est destiné. C'est précisément parce qu'au moment de son décès, le moine est toujours perçu par l'ensemble de sa communauté comme un individu avec des racines locales, bien plus que comme une célébrité dont la légende singulière serait déjà établie, que la sanctification qui allait suivre devait s'appuyer fortement sur la puissance d'exemples bien connus, afin qu'elle ait une résonance symbolique auprès des fidèles. Dans ce contexte, le Bouddha Sakyamuni était la source d'émulation idéale. Chaque bouddhiste connaissait bien l'histoire de la vie du Bouddha. C'est ce qui permettait et garantissait que se déroule sans heurts le travail de sanctification par lequel on pouvait évaluer ce que léguait le moine défunt et le vénérer par le biais d'un certain nombre de comparaisons faisant référence à Sakyamuni. Voici un exemple tiré de sources hagiographiques. Celui d'un moine, Yunhao, qui serait arrivé au terme de sa vie en 817. Le 11e jour du 11e mois de la 12e année de l'ère Yonghe, le moine présenta des signes de maladie. Il s'allongea sur le côté droit, les pieds l'un au-dessus de l'autre, et entra en nirvana. C'était le royaume du véhicule non-duel, le véritable samadhi de l'ainsi-aller. Cette brève description du nirvana, tout de suite après la scène du trépas, évoque la propre expérience de Sakyamuni, qui est bien sûr l'exemple le plus célèbre de quelqu'un ayant atteint cet état auparavant. Le rapprochement entre Yunhao et le Bouddha est renforcé sur le plan du langage par l'utilisation du terme ding ou samadhi. Comme l'explique Zanning lui-même dans un commentaire en marge des biographies, samadhi, ding, de même que les règles, tie, et la sagesse, hue, sont les trois clés permettant de réaliser en totalité l'enseignement du Bouddha. En bref, ce sont les trois voies qui trouvent leur origine au pays de la vie et de la mort, mais qui convergent vers un seul portail menant au royaume du nirvana. Cette stratégie d'allusion comparative qui font référence à Sakyamuni fonctionne également pour attribuer des caractéristiques aux reliques corporelles des moines, dont on fait souvent remarquer l'abondance et le caractère sacré. On dit que le Bouddha historique aurait produit suffisamment de reliques pour que le monde entier puisse les diviser en 8 portions. Bien que les récits écrits restent très évasifs quant à la quantité exacte, le caractère abondant des reliques s'est popularisé au point de devenir une marque de sainteté pour tous les moines bouddhistes. En Chine médiévale, cette caractéristique était considérée par les hagiographes comme un critère valable permettant d'évaluer la sainteté d'un sujet. Dans les biographies Song de Zanning, par exemple, il n'est pas rare que soit mentionné le cas de moines ayant produit plusieurs centaines de pièces de reliques. Dans ces cas extrêmes, ce chiffre peut atteindre des milliers ou se compter en litres, comme dans le cas de Shang Jing, mort en 950 en position allongée. En plus de la quantité, la qualité des reliques est également un élément qui en dit long sur l'accomplissement spirituel d'un moine au moment de sa mort. On parle de leur taille ou de leur couleur inhabituelle, de leur pouvoir curatif, du parfum ou de la puanteur qu'elle dégage, et qui pourrait envahir une ville tout entière. Ce souci de faire référence au modèle exemplaire de Sakyamuni est encore plus manifeste avec l'utilisation d'une terminologie pour décrire les reliques des moines qui était auparavant réservée à celle du Bouddha. Le terme « corps véritable » qui était à une époque exclusivement réservé aux authentiques reliques de Sakyamuni avait déjà bien perdu de sa force à la fin de la période Tang et faisait alors partie du vocabulaire utilisé pour décrire également les reliques des moines. Après ces quelques observations tirées des sources hagiographiques de la Chine médiévale, retournons maintenant à la crypte de Yingzhong pour analyser de manière plus approfondie la scène du nirvana peinte sur le mur nord. Si nous voulons interpréter le sujet dans le contexte d'un processus local destiné à une sanctification, il est évident que le thème du nirvana du Bouddha a été choisi pour ajouter visuellement un peu de cachet aux qualités permettant à Yiyang d'accéder au statut de saint local. Ce choix prend toute sa signification si l'on considère que le corps du moine n'a pas été momifié mais incinéré et ses reliques enchâssées comme d'authentiques reliques du Bouddha. Au lieu d'idolâtrer le corps et se faisant d'attirer l'attention sur la forte personnalité du maître défunt, les disciples de Yiyang ont décidé de s'appuyer sur la force de l'exemple de Sakyamuni pour mettre l'accent sur l'identité du maître après sa mort. Ceci fut réalisé en établissant une comparaison entre ses reliques et l'ultime accomplissement spirituel de Sakyamuni, en utilisant l'image du nirvana pour montrer le degré d'éveil qu'il avait atteint à la fin de sa vie. Le rapprochement symbolique du sujet et de son modèle était encore accentué par les reliques elles-mêmes, puisque leur poids, tout à fait remarquable, correspondait bien à un critère établi de sainteté, comme nous l'avons vu précédemment. L'arrangement somptueux des offrandes autour du réceptacle principal destiné à contenir les reliques prouvent encore combien les disciples qui lui ont survécu tenaient le moine en estime. Bien que l'on n'ait pas trouvé dans la crypte d'autres récits décrivant la mort de Yiyang, il ne semble faire aucun doute pour ses disciples que par ses reliques, le moine contribue à faire des apports vitaux pour la communauté. On leur a prêté les mêmes pouvoirs miraculeux que reliques du Bouddha, en affirmant la continuité de la présence sous sa forme sanctifiée de Yiyang. Les disciples de Dingzhu sont passés de la phase initiale, celle de la commémoration funéraire, à la sphère de la vénération religieuse, dans l'espoir de garder vivante la mémoire de l'un des personnages les plus éminents que leur communauté ait jamais connu. La communauté voulait aussi, par ce biais, s'assurer qu'elle allait continuer à prospérer comme avant avec la bénédiction de ce défunt très spécial. Pour conclure, j'aimerais revenir à la question que j'ai posée un peu plus tôt. À qui est associé le nirvana représenté dans un dépôt de reliques comme celui de la crypte du cloître de Yingzhong? Si l'on aborde cette question du point de vue purement iconographique, la fresque du mur nord possède à l'évidence beaucoup des caractéristiques principales d'une représentation du nirvana, c'est-à-dire du moment où le Bouddha Sakyamuni atteint la libération ultime. Mais si l'on étudie l'impact de cette peinture sur la collection d'objets qui l'entourent, ainsi que la structure qui l'abrite, c'est une interprétation assez différente qui commence à émerger. En tant qu'élément de première importance dans le processus de sanctification monastique, notre image de nirvana en est venue à signifier beaucoup plus que la représentation d'un épisode de la vie de Sakyamuni. Elle confère une présence figurative très vivante aux restes incinérés d'un moine bouddhiste. La spécificité temporelle de l'instant précis où Sakyamuni atteint le nirvana est supplantée par l'intérêt bien supérieur porté à la richesse métaphysique de l'expérience en elle-même. Une fois gommé l'élément temporel, le personnage allongé est amené à évoquer le nirvana dans un contexte plus large, celui de signe ultime d'éveil spirituel. Ainsi, c'est la valeur séculaire de cette image comme représentation fidèle de Sakyamuni qui est affaiblie. Rétrospectivement, cette signification fluctuante qui a résulté de la fusion délibérée du sujet et du modèle dans cet exemple de Song du Nord a en fait connu son apogée dans l'histoire de l'image du nirvana en Chine médiévale. Pour la plupart des exemples antérieurs au Xe siècle, la caractéristique biographique du moment du nirvana de Sakyamuni est l'essence même de la force associée à la représentation. Mais comme je l'ai montré dans cet exposé, l'espace caché du dépôt de reliques a ouvert un nouveau champ de possibilités d'interprétation en tirant parti de l'ambiguïté inhérente à la disposition même du motif. De manière tout à fait accidentelle, il se trouve que le dépôt du cloître de Yingzhong était assez complet et source de suffisamment d'informations pour nous permettre d'avoir un aperçu des motivations et raisons d'être de cette réinvention du thème. Pour la première fois, nous sommes face à une image du nirvana qui n'est pas tout à fait le nirvana du Bouddha, et cependant qui est celle qui est la plus fidèle à son esprit.
Merci.